Bon, alors, moi, je merci parce que c'est des exposés toujours assez difficiles. Hein. Je veux dire, essayer de parler de ces choses, ça. Enfin, disons, avec une certaine cohérence et en disant. En suivant. Ce que Lacan dit au fil de son expérience à lui et de sa cogitation aussi, des deux. Bon. Alors, bon. Alors, moi, j'ai des petites questions comme ça. Oui, bon, c'est des détails. C'est. L'impossible qu'identifie... Oui, c'est une remarque. C'est l'impossible qu'identifie Freud est bien le maître mot d'une analyse, mais pas là où il le soupçonne. Ça, c'est un petit peu excessif. C'est pas... Enfin, parce que l'idée que... l'idée... L'impossible est quand même bien présent chez Freud, même s'il propose, en effet, le roc de la castration, etc. C'est quand même... Ça reste quand même un impossible... Et même si Lacan va discuter, ça c'est vrai, c'est pas bon. Disons que on peut discuter que ce ne soit pas là où il le soupçonne, puisque le point est quand même là. Ça se passe là où. D'accord. Bon, enfin c'est un détail. Alors. Alors non, il y a une question sur la supposition de savoir, parce que là, donc, sans cette croyance, la croyance en un savoir, etc., il n'y aurait pas de cure. Alors le problème, c'est parce que sans, c'est une difficulté, ça. Oui, bien sûr, on peut dire que, en effet, l'instauration de la supposition de savoir nécessite qu'il y ait qu'on suppose un savoir à quelqu'un qui saurait quelque chose sur la vérité des symptômes et sur la question sexuelle. Bon, sans cette croyance, il n'y aurait pas de cure. La question, c'est qu'on ne sait pas exactement de quelle croyance il s'agit exactement dans le début de la cure. Et effectivement, c'est là où j'aimerais interroger là-dessus, sur qu'est-ce que c'est finalement, parce que supposer le savoir à l'analyste, c'est vrai, et en même temps, c'est sans doute.
C'est confus en fait cette supposition de savoir. Hein, voilà. C'est quelque chose du côté d'une. C'est confus, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui taraude. Enfin voilà. Et on voilà, il y a des gens qui sont payés pour ça qu'on va voir. Hein. Et enfin, je veux dire que c'est leur boulot, c'est leur job. Et on se dit, c'est pour ça que j'ai insisté sur la parole. Alors tout le monde n'a pas cette idée que la parole peut faire quelque chose. Il faut peut-être avoir l'idée déjà, même confuse, que quelqu'un dont le métier, c'est la parole, il peut entendre quelque chose de la parole. Je dirais que ça, c'est le côté naïf, peut-être, de l'entrée. Enfin, pas toutes les entrées, hein. Mais c'est cette croyance qu'il y a des gens qui sauraient quelque chose et qui pourraient mieux comprendre quelque chose de la parole.
Ouais.
C'est quelque chose un peu naïf, peut-être, hein. Mais c'est peut-être personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que après, il y a quand même une croyance en une. C'est-à-dire, on n'arrive pas en disant c'est un sujet supposé savoir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole et on y croit. On croit qu'il va pouvoir bien l'entendre. Enfin, c'est un peu ça que je voulais dire du côté de quelque chose d'un peu flou, d'un peu confus. Parce que je pense qu'en même temps, celui qui va voir un analyste, enfin pas tous, mais celui, quand on va voir quelqu'un et on sait que c'est un psychanalyste, on a quand même l'idée qu'il y a quelque chose quand même qui sait, voilà, même si ça reste confus. Hein, quand on a l'idée qu'on va voir un psychanalyste, ça, je parle pas.
Non, mais là, qu'il y ait une croyance, ça, je doute pas. Il y a forcément, faut bien croire à quelque chose. Ou obéir au voisin qui a dit qu'il fallait faire une psychanalyse. Hein.
C'est peut-être un croyant qui va voir un psychanalyste, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a une tendance à être croyant.
C'est ça. Mais c'est évidemment la question.
Oui, mais peut-être, je sais pas.
Oui.
C'est en ce sens que j'avais évoqué simplement le début, quand quelqu'un y va. Enfin, mais c'est pas pour tous, mais probablement qu'il y a quand même quelque chose qu'on attend de celui qu'on va voir.
Oui, sûrement.
Voilà, mais...
Alors, ce qui est intéressant, c'est... Alors, effectivement, je ne sais pas... la tonalité plus ou moins mélancolique, là, ça, j'ai trouvé important, enfin intéressant de dire ça. Finalement, ce à quoi l'analysant se cogne, hein, puisque évoquer ça. Alors donc, j'aurais aimé disons, si c'est possible, un élément de plus sur ce côté. Sur cette paralysie qui lui vient à l'occasion. Et alors, je ne sais pas si cette paralysie est articulée ou pas à la fin de la cure. C'était un petit peu ça la question.
Ben, disons que ça commence à être le début de la fin. C'est-à-dire que il me semble que à partir du moment où quelque chose insiste, qu'il y a la rencontre avec l'impuissance et que malgré les mots, même ça peut empirer, il y a quelque chose où le sujet ne sait plus très bien. Il me semble, la rencontre avec l'impuissance, elle emmène quand même une inhibition c'est-à-dire, là, du coup, il y a la croyance qui commence à tomber. Alors, ça a un effet sur l'affect.
Oui.
C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui déchante. Hein, il y a quelque chose qui serait du côté du désenchantement. Et j'ai évoqué la paralysie parce que il me semble qu'il y a quelque chose, en plus de la posture allongée au fil des années, fait que si en plus on ne peut pas bouger, qu'en plus les mots ils peuvent plus se dire, il y a quelque chose quand même qui vient mettre le sujet en difficulté. Et il me semble qu'il y a quand même un affect très de chute qui commence à être là. Donc c'est pour ça que je parlais de côté un peu mélancolique. Il y a quelque chose vraiment où le sujet ne se tourne plus du côté de son histoire, mais aussi du côté de lui. Donc il y a peut-être quelque chose qui viendrait...
Je posais la question, parce que c'est quand même une des références que Lacan donne, en référence à Baline, n'est-ce pas, de la fin. Je pensais, quel rapport avec cette fin supposée maniaco-dépressive qui est... mise en avant par Baline, c'était ça, oui. Un petit peu la question.
Ce serait le contrepoids de plutôt du côté enthousiasme de la cure, enfin pas l'enthousiasme de l'affect dont parle Lacan sur la fin de la cure, mais sur le côté croyant qui fait que ça, que le goût pour la vérité, le sens. Moi là, je parlais pas du côté maniaco-dépressif, je parlais vraiment de ce qui fait que. Qu'il y a quelque chose qui cogne et qui fait que le sujet, il trouve plus de... Ça le rend... dans l'impossibilité il rencontre quelque chose où il ne peut plus... il ne peut plus déchiffrer. C'est-à-dire que C'est la rencontre avec le pouvoir, les mots qui perdent leur sens, qui commencent à perdre leur sens et le fait de pouvoir déchiffrer. Hein, c'est en ce sens-là que je parlais de la paralysie, mais aussi de la paralysie des mots eux-mêmes, enfin quelque chose comme ça.
Oui.
Mais voilà, je sais pas, moi cet affect-là me parle, mais en même temps peut-être, je sais pas s'il peut être généralisable, il me semble quand même qu'il y a quand même quelque chose qui bute, qui fait quand même que ça fait éprouver certains affects. Mais voilà.
Non, c'est ça. C'est ma mais question. Bon. C'était quel était le est-ce qu'il y avait un rapport avec entre Dali. Ce moment, mélancoliforme et le moment, final.
Disons, il le précède.
Ah, donc c'est parce que quand on dit plutôt maniaco-dépressivement. On imagine maniaque, mais la phrase c'est quand même plutôt maniaco-dépressivement, donc ça veut dire ça suppose les deux. Ça suppose que ça peut être aussi bien dans la fin de la cure, il peut y avoir les deux. Mais là, vous le présentez dans un ordre,
oui,
comme ça. Bon, ben c'est.
Mais disons, j'avais envie de mettre en avant la question de l'affect, affects nouveaux qui apparaissent. Alors après, c'est peut-être différent selon sûrement les sujets, mais il y a quand même, quand on bute sur quelque chose et qu'on rencontre quand même la limite du langage, il y a quelque chose où le langage, on ne peut plus rien en tirer, enfin, voilà, ça...
Oui.
Il dit phase de deuil, puis le deuil s'achève, plutôt maniaco-dépressivement.
C'est ça, oui, non, mais je.
Il est en train de parler de la phase de deuil.
C'est ça, non, mais je veux dire simplement que. Bon, après, c'est vrai que la façon, oui. la temporalité de ces choses est.
Mais justement, enfin, je voudrais insister, c'est parce qu'il y a une temporalité. Enfin, on le repère a posteriori, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut lire après coup sur, effectivement, il y a une temporalité sur ce... C'est ça que j'ai quand même voulu mettre en avant, c'est que c'est pas...
C'est ça,
il y a un battement, vraiment, voilà, dans ce que j'appelle le mouvement de fin.
C'est ça. Alors, bon, on va revenir dessus. Alors là, sur les éléments apportés par Irène, donc, on a... c'est quand même très frappant, ça n'a pas été dit, mais enfin, les textes de référence et surtout la logique du fantasme et l'acte. Donc, donc effectivement, la période... où Lacan met en place enfin la passe, disons.
Oui.
Bon,
oui.
Donc
il y a aussi le moment de conclure.
C'est des réflexions qu'il y a dans le moment de conclure qui se trouvent en fait dans le séminaire 1. C'est...
J'ai pas revu le séminaire 1, mais
sur le transfert. Sur le transfert comme résistance, c'est une notion qui est là. Bon.
Non, c'est pas cette référence-là.
D'accord. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est le statut du fantasme. En tout cas, le statut du fantasme. Au moins à cette époque, c'est-à-dire au moment où Lacan pense la passe, met en place la passe, enfin le pense et finit par le mettre en place. Donc c'est juste à ce moment-là.
Oui.
Alors effectivement, c'est vrai, il y a des. Alors Bon, donc la mise en place du fantasme, ça, j'ai trouvé ça très. L'idée qu'en quelque sorte, c'est ce que vous avez dit, insisté toutes les deux, c'est-à-dire qu'il y a une preuve par la fin, c'est-à-dire c'est la fin qui permet de rétroactivement, enfin, de repenser la chose. Alors, tout ça sur la dimension proprement, disons, sur l'affaire du fantasme. Alors, il y a une question quand même que je voudrais poser, peut-être des précisions. L'idée, c'est que l'objet, c'est le regard. Alors, j'aimerais bien... voilà. Mon idée, c'est, au fait... je pense que c'est juste, c'est pas... Mais pourquoi cet accent mis sur l'objet regard dans cette opération?
Oui, parce que en fait, Lacan parle justement par rapport à ce texte de Freud, Un enfant est battu. Lacan ajoute ce que j'ai cité là, que le regard vole. Est au-dessus du fantasme. C'est-à-dire qu'il y a quand même... ce sont des scénarios imaginés plus ou moins par le sujet, et l'analysant porte un regard, c'est-à-dire il en parle, il est décrit, mais en fait, il est aussi bien spectateur que acteur. Oui. Et au fond, je dis bien que le fantasme ne se réduit pas à cet objet pulsionnel. C'est-à-dire que, bon, selon chacun, l'objet pulsionnel peut être plus ou moins, enfin, ça peut être, oui, d'autres. Mais ce que je trouve intéressant dans, enfin, je pense que c'est un objet pulsionnel qui est toujours, enfin, il me semble que ça peut être quand même toujours associé à la question du regard. Je trouve que le regard, c'est un objet pulsionnel qui est particulier par rapport aux autres objets pulsionnels. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le changement de position du sujet en fin de cure, enfin, ce qu'il perçoit d'un changement de position, c'est quand même un changement de regard qu'il a sur son fantasme. J'ai accentué un peu le trait, mais tout en sachant que c'est pas, encore une fois, le seul objet pulsionnel. Il y en a d'autres qui peuvent être. Enfin, sur les sujets, ça peut être autre chose, un autre objet pulsionnel qui peut avoir son importance. Mais je pense que la question du regard donne l'idée de ce changement. Parce qu'il y a vraiment... Enfin bon, après, effectivement, c'est au cas par cas. Mais ça donne quand même l'idée de ce changement de position du sujet, enfin, dans le regard qu'il a sur son fantasme. Il y a quelque chose... Quand Lacan dit qu'il y a quelque chose qui est dévoilé, ça donne aussi cette idée-là.
C'est vrai que... Toute l'affaire du fantasme est pensée par rapport à l'image et le regard. Cette opposition.
Mais c'est pas forcément Freud qui accentue ce trait. Je trouve que Lacan l'accentue.
Oui. Non. C'est Lacan.
Oui, oui.
C'est assez net.
Oui, oui.
C'est vrai chez Freud, c'est aussi vrai chez Lacan.
Oui.
Il étudie la question à partir du regard.
Oui, oui.
En tout cas, cette question. L'image et du fantasme. Alors, évidemment...
Peut paraître réducteur, effectivement.
C'est ça. Parce qu'après, la question qui se pose, ça sera celle, effectivement, mais c'est toujours un petit casse-tête pour nous, c'est l'articulation du symptôme et du fantasme.
Parce que, c'est vrai, je n'ai pas trop développé ça. J'en ai parlé un petit peu, mais je n'ai pas trop développé. Oui, j'en ai un petit peu parlé, mais je ne l'ai pas trop développé. Mais effectivement, de toute façon, on peut dire que quand même le fantasme est comment dire, une sorte de support des symptômes. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est
mais oui. Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pour ça. Hein, non, mais bon, là, parce que on a l'idée d'un. Parce que, comment dire. C'est parce que c'est à cause de la présentation du symptôme, et ensuite on passe le fantasme est censé. C'est-à-dire, la question, c'est comment le fantasme traite le symptôme, par exemple.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Voilà. Bon, allez, on va passer la parole à la salle. Tiens, tu veux un micro ?
Non, c'est juste un mot sur le point du fantasme et du regard. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire que le regard est toujours dans le fantasme. C'est le scopique qui est toujours impliqué dans le fantasme. Dans la mesure où un fantasme a un scénario. Qu'on dise image, qu'on dise scénario, il est vu. Mais c'est du scopique, ce n'est pas du regard. Et quand Lacan dit « le regard flotte », c'est toujours notre grosse difficulté, c'est que dans la langue, quand on dit « regard », ça désigne aussi bien le scopique que l'objet A, qui est tout autre chose. Et donc, j'ai l'impression que ces développements de la logique du fantasme, où il insiste justement pour insister sur la dimension, il y a toujours une dimension d'image, de représentation dans un fantasme. Et donc ça suppose le scopique. Mais ça ne veut pas dire que l'objet, quand on écrit S barré poisson de A, le A n'est pas forcément un regard, et même assez rarement, pour tout dire. Hein, il me semble. Hein. On voit bien très souvent l'objet oral, on voit très souvent l'objet anal. L'objet regard, il est beaucoup plus difficile à loger,
à dégager
du scopique, oui.
Mais pourtant, Lacan parle de l'objet A, du regard. Il en parle. Donc, ça n'est pas...
Je ne parle pas du texte.
Non, mais du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis, est-ce que quand il parle de l'objet A, du regard, est-ce que c'est l'objet scopique ? Oui. Je me pose la question.
Je ne parle pas du texte, que je n'ai pas relu récemment.
Oui,
il y a les deux. Il parle clairement de la distinction dans le séminaire 11. Dans la schisse de l'œil et du regard, alors là, ça, c'est clair. Mais après, il se trouve que dans la langue, et ça, c'est dans le langage de tout le monde, quelquefois, on dit le regard, on est en train de parler du scopique. En train de parler de l'objet regard. Hein. Donc, dans les textes de Lacan, c'est pareil.
Le rêve, le dispositif du rêve met l'accent sur l'image. C'est le propre du rêve. Mais ensuite, effectivement, c'est. Oui, bien sûr. C'est pour. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Des questions, en effet, essentielles. J'ai d'autres, mais je ne veux pas non plus accaparer le micro. Marc, tu veux dire ? Bon, tiens. Voilà.
Merci pour vos deux exposés. Alors, je n'ai pas tellement de questions sur les exposés. Il y en aurait beaucoup, mais ça, c'est la question.
Éloigne ton micro un petit peu.
Comme ça ?
Oui.
C'est la question à partir de vos exposés à laquelle je donne la priorité. Je pars d'une phrase de Nadine, quand vous avez dit « malgré les lectures, les séminaires, le sujet ne peut qu'en faire l'expérience, ne peut que l'éprouver ». C'est vrai pour toute l'analyse, c'est pour ça qu'on insiste sur la nécessité de l'analyse didactique. C'est pas seulement vrai pour la fin, c'est vrai pour toute l'expérience analytique. Aucune lecture, aucun séminaire ne peuvent se substituer à l'expérience analytique. On est d'accord jusque-là ?
Enfin, pas tout à fait.
Ah.
Enfin, c'est-à-dire que, enfin, peut-être je comprends pas bien votre question, mais je pense que les séminaires, tout ce qu'on entend, alimente l'analyse.
Alors, c'était ma question.
Elle alimente l'analyse.
C'était ma question. Dans quel sens ? En bien, en mal, en l'accélérant, en la ralentissant ?
Non, mais ça l'alimente, même la question, voilà. La question de la passe, de la fin, elle alimente l'analyse, elle alimente le sens, enfin, voilà, ça met du grain à moudre pour l'analyse. En revanche, l'expérience, comme ça, de la surprise, ça, c'est pas... Ça ne vient pas de ce qui est entendu, même si ça a alimenté la cure. C'est en ce sens que je pense qu'il y a un écart entre ce qui alimente la cure quand ben voilà, on commence à venir au séminaire, on écoute, voilà, on veut être un bon analysant, on essaye quoi. Et mais le moment de cette surprise est totalement inattendu et ne rencontre rien de ce qui peut avoir été rencontré. Bien sûr, après, en lisant ce qu'on lit sur la passe ou sur ce moment de passage, on se dit, ben, Lacan, il a dû avoir cette expérience, il a dû entendre des gens à qui c'est arrivé. Voilà. Donc, voilà, il y a un écart pour moi. C'est ça que je voulais dire.
Si les séminaires enfin, alimentent la cure,
non.
C'est la question. Oui, excusez-moi. Alors ça, je me suis pas posé les choses en ces termes-là. Moi, ça me semble pas forcément.
Dans vieux débat, on a. Oui. Vous savez que c'est Lacan qui a introduit l'idée que les analysants, ces analysants spécialement, mais les analysants en général, pouvaient assister au séminaire. Parce qu'avant lui, on avait l'idée que le savoir ne alimentait les résistances.
Et vous vous souvenez peut-être d'un débat qu'il y a eu ici avec Videlocher, qui a eu un rôle éminent dans toute l'histoire. Et effectivement, que Videlocher, alors il s'agissait de la présentation, mais enfin également du séminaire, c'est-à-dire, il a dit que ce qui était insupportable pour lui, il l'a dit ici. Donc, ce qui est insupportable pour lui, c'est effectivement l'espèce de double casquette de Lacan, à savoir celui qui est l'analyste et puis celui avec qui il y a un échange à propos de patients dans la présentation et aussi l'enseignant. Il a précisé tout ça et que c'est ça qui a été insupportable pour lui, hein, puisque on dit que c'est lui qui est le traître.
Moi, il me semble pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que quand même, l'analyse garde son cap, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que bon, on peut assister à des séminaires ou pas. On peut. Alors, il y a la question du transfert. Effectivement, si on est en analyse avec quelqu'un qui est de la même école ou on assiste à des séminaires, sans doute. Mais je pense que on garde son cap et je ne pense pas forcément que assister à des séminaires soit un problème. Enfin bon, c'est mais ça dépend des personnes. Peut-être que pour certains,
Non, c'est pas la question de Marc.
Non,
oui.
Non, il y a un débat.
C'est-à-dire, ça pouvait alimenter, mais comme toute la vie du sujet alimente, c'est-à-dire que si le sujet vient à des séminaires, ben ça alimente, voilà, d'un coup.
Dans la foulée historique, faut quand même rappeler que sur c'est un point absolument fondamental dans que Lacan est dans, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de la critique de la prétendue neutralité du psychanalyste. Alors, effectivement, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui à l'IPA avec Internet, où on peut à peu près tout savoir de son analyste, n'est-ce pas, puisque c'est sur Internet, en général, on trouve. Bon, donc, mais enfin, à l'époque, tout ce qui définit le cadre est absolument centré là-dessus, c'est-à-dire centré sur le fait qu'on ne doit rien savoir du psychanalyste. Rien. Il doit avoir un costume, une cravate grise. Il doit, son bureau doit être terne, etc. Et ils ne doivent pas lire la psychanalyse. Hein. Or, Lacan prend il faut bien dire, le contre-pied de ça, sur toute la ligne, c'est-à-dire effectivement en montrant que le transfert ne se règle pas là-dessus, et même qu'il y a un usage, il le dit, hein, il y a un usage qui consiste à l'écouter lui comme analysant, hein, un usage important dans l'exercice même de la psychanalyse. Il a dit, c'est une thèse de Lacan. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est, après, on peut discuter.
Mais je voudrais quand même rajouter que il y a aussi la question du savoir. Hein, c'est-à-dire que ça alimente, mais aussi ça ouvre à quelque chose sur des bribes de savoir théorique un peu sur sa propre cure. Hein, même si donc c'est ça, quand je dis ça alimente la cure, mais aussi donner un peu, déjà prendre un peu de recul aussi par rapport à sa propre cure par ces petits bouts de savoir qu'on chope au niveau théorique. Et enfin, si on n'entend pas parler de la passe, ça vient pas dans la cure tout seul.
Ça,
ah bon, sauf si on l'a lu quelque part, non? Je sais pas, je...
Mais c'est comme l'amour, toi, tu dis... C'est comme l'amour, la passe. Non, je voudrais quand même, sur cette question du savoir, moi j'ai un souvenir précis de sortie de séminaire, où effectivement, il y avait, je crois que j'ai compté 6, il y avait 6 dames qui sont sorties du séminaire en disant « Il a parlé de moi ». Sur le même bout de texte, en plus. Bon, donc, c'est en même temps pour à la fois situer la chose, donc je crois que c'est important.
Mais la singularité du sujet en prend un coup, là.
Non, mais... Pas, justement, oui et non. C'est, elle voulait dire un mot là-bas. Il y a...
Ça marche plus. Oh, ben, allez-y.
Allez-y.
Je voulais juste dire que je serais tentée ce soir d'avoir un peu la même idée que Vidlocher, quand même. Je n'arrive pas à penser tout à fait qu'il ne peut pas y avoir un risque, en tout cas. Parce que n'est pas Lacan qui veut. Lacan dit qu'il est analysant dans ses séminaires. Je ne suis pas sûre que c'est toujours la posture de... peut-être quelquefois il y a des positions de maître, je ne l'exclus pas, et que c'est... Moi, je pense que ça peut être une difficulté quand même d'aller écouter son analyse dans les séminaires. Peut-être même pour la fin de la cure. C'est mon idée. Enfin, je trouve qu'il ne faut pas le mettre de côté comme ça.
Ah ben,
moi, je l'interroge.
Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire après ce
Ah, ça marche. Bon, très bien. Oui, je suis, pour prendre le fil de cette remarque, si un enseignement est pris dans le style universitaire, ce qui est quand même le plus fréquent, ça ne sert pas beaucoup pour la psychanalyse. Ça, c'est plutôt un obstacle. Bon, pas, peut-être pas un obstacle à l'analyse, mais en fait, ça fabrique du discours ritournel. Bon, l'enseignement de Lacan, c'était quand même pas de ce type-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et même ses présentations de malades, c'était pas non plus. Ça rentrait pas dans le genre maître, en fait. Bon, ça c'est une simple remarque. Alors, sur la question, il n'y aurait pas la pince si Lacan n'avait pas parlé. Alors ça, c'est un grave problème. Parce que je crois que ce que Lacan a... Il a construit le dispositif pour qu'on témoigne de ce qu'est la pince dans l'analyse. Donc, si elle n'est pas dans l'analyse, sans qu'elle soit nommée par Lacan, alors ça met en question complètement la pince. Et d'ailleurs, moi j'ai quand même l'idée que Lacan, il a construit le dispositif pour vérifier s'il y avait des passes dans toutes les analyses, ou si c'était rare, ou si on arrivait à en parler ou pas en témoigner. Parce que la passe, c'est quand même quelque chose interne à l'analyse, avant d'être ce que l'on va raconter sur la passe, dans le dispositif et après dans l'école. Hein. Je ne crois pas qu'on pourrait dire qu'il n'y aurait pas de passe si Lacan ne l'avait pas nommé. Mais simplement, s'il ne l'avait pas nommé, peut-être on en parlerait autrement, on aurait peut-être d'autres termes, j'en sais rien. Bien sûr, une chose nommée se met à exister tout à fait autrement. Mais ça, c'est quand même très très important. Hein. Et même, c'est parce qu'on en parle que peut-être ça entretient un désir de passe. Hein? Parce que comme c'est en quelque sorte, maintenant que c'est dans le discours, plus c'est dans le discours, plus ça canalise les idées sur l'analyse. Ça, c'est tout à fait normal. Hein? Le discours fabrique... Je voulais faire une autre remarque qui est un peu différente, mais qui... Bon, pour le dire comme ça en s'amusant, hein. À force de parler de la surprise à la fin, on ne sera plus surpris du tout. Parce que je dois dire que je ne crois pas qu'on puisse généraliser l'idée que la passe est un moment de surprise. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai pour tous. Il y a des sujets peut-être où il y a eu un moment de surprise et pourquoi pas ? Authentiquement, on peut le recevoir pour un sujet. Mais le virage de passe ne se présente pas forcément dans un vécu de surprise. Pas forcément du tout. Hein. Là, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait inscrire dans un autre descriptif. Donc, c'est ça la difficulté. Hein, c'est que la passe singulière, on ne peut pas tenir un discours généralisant dessus.
En même temps, qu'est-ce qui se passe face à ce dévoilement d'un réel, donc c'est entreaperçu, et qui quand même génère une aurore de savoir. C'est-à-dire que ça ne peut pas laisser indifférent. Ça peut pas laisser.
Non, mais des surprises, il y en a plusieurs types dans l'analyse.
Oui, mais qui.
L'élaboration de la vérité traîne des surprises avec elle.
Mais qui amène à une conclusion.
Donc,
qui sont conclusives.
La surprise conclusive.
Oui,
surprise conclusive, pour moi, ça ne correspond pas à la phénoménologie de toutes les analyses.
Non.
Il y a des conclusions qui n'arrivent pas dans une phénoménologie de surprise.
Il peut, par exemple, ce qui se voit, c'est « c'est terminé, point
ouais. ». Ça existe aussi, oui.
Et ce n'est pas forcément factice, je veux dire.
Non,
pas nécessairement. c'est un constat comme ça, pouf. Bon. Donc, et où il n'y a pas l'affect d'ailleurs, ni. Bon. Cela dit, il peut exister aussi, c'est pas.
Oui, c'est ça, Le descriptif est toujours singulier.
Ce qui est caractéristique, ce qui est l'élément, c'est quand même l'indication, disons, d'une coupure. D'une coupure, alors de quel type ensuite, effectivement, il y a des variations. Enfin, il y a l'idée qu'il y a une coupure.
D'un inédit. Moi, je pense que la question de l'inédit, c'est. Enfin, effectivement, on peut prendre acte de l'inédit et dire c'est fini. Sans...
Mais c'est fini, c'est la fin. C'est pas forcément la passe, le c'est fini.
Non, là, c'est... non parce que. Alors, face à l'inédit, il y a quelques. Bon, ça peut ne pas être conclusif pour certains, peut-être.
Oui, mais c'est vrai que la question de la surprise, on peut aussi dire qu'il y a quand même une prise sur quelque chose dans ce moment. Alors, effectivement, le mot surprise, ça a toujours un côté un peu avec un affect, etc. C'est peut-être ça parce qu'on le répète. Bon, c'est vrai que moi, si je le mets, parce que je l'ai éprouvé, mais c'est aussi une prise sur quelque chose qui est vraiment. Il y a quand même un effet de coupure. Après, je ne sais pas, effectivement, selon les sujets, mais il y a quand même quelque chose qui fait que, effectivement, il y a au minimum quelque chose qui est. Qui fait coupure, je pense que le terme de coupure, et une prise quand même sur quelque chose qu'on n'a pas.
Une prise autre.
Voilà, c'est ça, je dirais ça.
Quand on dit surprise, effectivement, c'est prise. Vrai, il y a une dimension qui n'est pas absolument nécessaire, mais une prise.
Voilà, je dirais.
Une autre prise. D'ailleurs, le terme figure hein, chez Lacan à propos de ça. Hein.
Et où on se. Enfin, en tout cas.
Disons très... même prise au corps.
Et puis.
Il parle de prise au corps.
Et puis, justement, cet inédit fait coupure par rapport à la question de la répétition. Il y a quelque chose. Enfin. Ça ne dure pas. C'est pas quelque chose qui dure. Mais c'est. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre. Enfin, cet inédit n'est pas de l'ordre de la répétition.
De nouveau.
Oui, inédit.
Bah, inédit, moi j'ai pas le terme inédit, parce que c'est du texte. On dit inédit d'un texte.
Ah oui, d'accord.
Donc je préfère nouveau.
D'accord. Oui.
Il y a un monsieur derrière qui voulait dire.
Je vais
passer le micro.
Est-ce qu'on pourrait pas, il y a la question de la fin et puis il y a la question d'un moment de passe. Je crois que c'est Albert Guyens dans un texte qui a essayé un petit peu de distinguer ces deux moments. Et est-ce qu'il n'y a pas là justement
Oui, effectivement, c'est Lacan qui l'a fait et Miller qui l'a repris en le développant. Voilà. Mais
qu'est-ce que j'ai dit? Oh bah, il y a une grosse différence.
C'est vrai aussi. C'est Lacan qui l'a dit. Miller l'a repris et donc Guyenne. Non mais de la différence entre la passe et la fin. Et... Passe première, passe seconde, ça c'est quand même une terminologie de Miller qu'il a prise et qui a été très largement reprise ensuite. Voilà. Bon, donc vous insistez sur cette différence-là. Effectivement, c'est vrai que c'est pas le. Alors, on va. C'est Marc qui voulait dire. Sol voulait dire quelque chose.
Oui, j'avais.
Pardon, Éric, ce micro. C'était mon effet.
J'étais intéressée, je ne sais pas si c'est ce moment-là que Irène vous appelait inédit, mais par ce moment que vous avez isolé dans votre exposé où il y a une interprétation
Donc vous dites que c'est l'interprétation qui est à l'origine du processus de fin. Et si j'ai bien suivi ce que vous indiquez, c'est une interprétation qui ébranle le fantasme, qui ébranle l'assurance que le sujet trouvait dans le fantasme. Et vous avez dit là, soudain, l'analysant apparaît à lui-même comme autre, est autre pour lui-même. Et donc c'est ce moment-là qui m'a paru correspondre dans votre exposé, un moment, disons, de virage. Hein? Que vous connectez d'ailleurs, et ça donne sens à l'expression horreur de savoir, vous connectez cette apparition soudaine, c'est moi qui le reprends comme ça, de l'analysant à lui-même comme autre, dans lequel il ne se reconnaît pas du tout, et vous connectiez à ça l'horreur de savoir, hein, si j'ai bien suivi votre déroulement. Alors, à Nadine, je voulais retenir un point qui m'a retenue, parce qu'inhabituel, j'allais dire surprise, donc j'ai voulu éviter le terme, cette idée du symptôme, du sans raison du symptôme. Vous disiez que l'analysant accepte mal l'idée d'un sans raison de son symptôme. Donc j'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur ce sans raison du symptôme.
D'accord. Oui, en fait, cette interprétation fait coupure parce que elle est énigmatique. Alors, on peut dire qu'il y a des interprétations qui sont énigmatiques au cours de l'analyse, enfin, qui font réfléchir, qui laissent perplexe. Celle-ci. Enfin, à aucun moment l'analysant ne peut y donner un sens. Et en même temps, elle le convoque particulièrement. Mais elle s'accompagne, elle le convoque parce qu'elle s'accompagne d'un changement de regard sur les scénarios, les scènes de fantasmes qu'il avait jusqu'à présent. Et c'est signifiant, en fait, c'est pas qu'ils sont incompréhensibles en soi, ça peut être une phrase tout à fait compréhensible, sauf que pour l'analysant, ils font totalement énigme. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'ils peuvent représenter la question du hors-sens dans la mesure où cette interprétation porte sur le scénario du, enfin, le ou les scénarios du fantasme. Donc, c'est une question que je me suis posée, si quand on parle de signifiant hors-sens, qui peuvent être produits à la fin d'une cure, est-ce que ces signifiants-là ne sont pas, en fait, l'envers, la part de réel des signifiants qui sont comme ça, enfin, utilisés dans le, enfin, qui constituent le fantasme fondamental. Je me suis posé la question si qui aurait à voir avec une certaine position structurelle du sujet et les signifiants qui le constituent, mais qui sont du côté de l'horreur de savoir, justement. Je me suis demandé s'il y avait, parce que bon, je me dis signifiants hors sens, ils tombent pas du ciel, ils sont pas non plus, on n'est pas complètement, enfin ils sont. Voilà, bon.
Attends, alors.
Oui, le terme de sans raison, c'est un terme qu'utilise Lacan pour parler de Schreber. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment, Lacan dit que le symptôme ne se relie à rien. Et c'est vrai que, bon, pour revenir à la prise sûre ou la surprise, il y a quelque chose qui est fou dans le sens de, comme on dit, mais c'est fou ce que je viens de dire. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui fait effet de... Et ce sans raison, je pense que je l'ai... C'est, y a comme, il me semble que dans le symptôme, enfin, il y a quelque chose, effectivement, qui est incompréhensible. Et sur lequel... Alors, c'est pour ça que j'ai parlé d'une raison sur laquelle on... Enfin, moi, que j'identifie plutôt du côté du fantasme, où là, on peut trouver encore du sens à quelque chose de son symptôme, et quelque chose qui échappe à ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça sans raison, si ce n'est relié à rien, et qui laisse une énigme pour le sujet. Même si, effectivement, comme tu dis, Irène, les signifiants, ils tombent pas du ciel, c'est bien un signifiant qui appartient au sujet, mais qui est tout seul dans le vent, je ne sais pas comment dire ça.
Il a perdu son certificat d'origine. Voilà.
Non, mais il a surtout perdu, c'est-à-dire c'est un saint qui reste sans appel. Enfin, c'est en ce sens que je parlerai de sans raison, et peut-être pour ce côté un peu fou du symptôme, si je peux dire. Oui, oui, mais voilà.
Non, ça te paraît assez convaincant, parce que effectivement, c'est peut-être qu'ici, ça serait justement ce qui a été évoqué du passage de l'impuissance à l'impossible. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est sans raison. Il faut bien que le symptôme ait une accroche de ce type, c'est-à-dire dont on n'est pas le sens. Voilà. Bon. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine.